Stones en France, Exile on Main Street.
Comment les Rolling Stones ont adopté la France et comment ils s'en échappent en courant 6 mois plus tard, emmenant quand même avec eux le meilleur disque que jamais ils aient fait.
Par un mariage. Le maire de Saint-Tropez devant Mick Jagger, qui a posé le genou sur la table, et Bianca, à peine voilée par un peu de dentelle. En 1970, après Altamont, les Stones ont adopté profil bas, au moins le temps que les procès se calment. Aussi, parce que Keith Richards s'enfonce de plus en plus dans l'héroïne, avec ce que cela impose de clandestinité. Richards participe à peine au mixage de Get Your Jägers Out, le disque live de la tournée américaine, et aux séances studio du futur Sticky Fingers. Sway et Moonlight Mile seront les premiers morceaux des Rolling Stones sans Keith Richards, même s'ils sont signés quand même Jagger Richard. On va tourner en Europe. Pour la première fois, on s'adjoint sur scène le piano de Nicky Hopkins et le saxophone de Bobby Keys, un petit rouquin trapu qu'ils connaissent depuis longtemps, qui a d'abord fasciné Keith parce qu'il est un vrai enfant de la balle. À 14 ans, il était déjà en tournée avec son saxophone, et c'est lui qui en joue sur le premier disque de Buddy Holly, une légende. Puis ils se sont aperçus qu'ils ont le même âge, qu'ils sont nés tous deux le 18 décembre 1943. Ils deviendront inséparables jusque dans les excès d'héroïne. C'est la fin du second contrat d'ECA, et les Stones reprennent leur liberté vis-à-vis d'Alan Klein. Ils doivent encore un 45 tours. Ils enregistrent par provocation ceci: le blues du suceur de pin, Cocksucker Blues, éloge de la pédophilie, qui bien sûr restera inédit. C'est le 22 septembre au George V à Paris, dans la réception qui suit leur concert au Palais des Sports, qu'Eddie Barclay, un vieux monsieur du show business, présente à Mick sa jeune fiancée, Bianca Pérez Morena de Macia. Le lendemain soir, c'est sans Eddie Barclay qu'ils dînent ensemble. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, Mick et Bianca. Même Tom Kellogg, le chauffeur, s'y trompe parfois. Même coiffure et les vêtements qu'on échange. On tourne pour la première fois en Angleterre depuis 5 ans, mais maintenant dans des salles de 4000 places. Un caravansérail en désordre. Le matériel arrive en camion. Wyman, Watts et Taylor dans l'après-midi par le train. Mick et Bianca dans le dernier train, celui qu'aurait dû prendre aussi Keith Richards. Mais le caravansérail Richards, c'est-à-dire Keith, Anita, leur bébé Marlon, leur chien Boogie, plus Graham Parsons et le pourvoyeur en héroïne Tony Sanchez, ont toujours manqué le dernier train. Se sont finalement engouffrés dans la Bentley et arriveront 3 heures en retard, tandis que le public attend, quelquefois pour bien jouer, comme à Leeds. Mais d'autres fois, à peine si Keith tient debout. Alors l'ambiance dans les loges, comme ce soir à Liverpool, est au froid. Bill Wyman.
I just want everyone to say it was shit. They queued for 5 hours and we were shit. Je préférerais qu'on dise vraiment que c'était de la merde. On les fait attendre plus de 5 heures et on a été de la merde.
Profil bas de Richards. Alors, Anita monte au créneau pour répondre.
They don't know the difference, Bill. They enjoyed themselves. It doesn't matter to them. Ils ne font pas la différence, Bill. Ils sont contents d'être là. Le reste, ils s'en fichent.
Après tout, pense Anita, qu'est-ce qu'on pourrait bien y faire de mieux à Liverpool? C'est Bobby Case, le saxophone, qui essaye de détendre l'atmosphère en exagérant encore son accent du sud.
I was great. I was fantastic. I carried you all. Moi, j'étais grand. Moi, j'étais fantastique. Je vous emmenais tous.
Et Mick, debout près de Bianca, désormais vêtue à l'exotique comme eux tous, sous un vaste turban à plumes et doté d'un fume-cigarette de 20 cm, tandis que Mick arbore un nouveau manteau de cuir fin bleu pâle long jusqu'aux chevilles, clôt la conversation.
I don't give a shit. When I'm on stage, maybe, but now I'm off. Je m'en fous à mort. Quand je suis en scène, peut-être. Mais là, terminé.
Tout ce que trouve à dire Richards en excuse, voici.
What we need is a joint.
Graham Parsons, qui a entendu, rebondit en ouvrant la porte des loges et en beuglant au dehors pour la postérité.
Yeah! Where are the dope dealers? Dope dealers? Ouais! Où sont les dealers de dope? Ouais, les dealers!
Corps planté que l'Espérin, leur responsable de presse, lance le brûlot. Au regard de ce qu'ont gagné les Rolling Stones, ils auraient tout intérêt à ne plus vivre en Angleterre pour éviter les impôts, ce qui signifie que la décision est déjà prise. Mick, depuis un an, a mis leurs affaires dans les mains de Rupert von Löwenstein, le prince Löwenstein, pour démêler les chevaux compliqués des sociétés créées par Alan Klein. S'il leur a permis effectivement de gagner beaucoup plus d'argent, il les a roulés d'au moins 29 millions de dollars en 5 ans, prétendent-ils. Surtout, ils s'imaginaient que l'argent que leur versait Klein était net d'impôts, mais ça ne concernait pas l'Angleterre. Bill Wyman doit au fisc anglais 118 000 livres, et Jagger et Richards au moins 5 fois plus chacun.
On a million dollars, you got left with 70 000. And you owed that more than that to the tax people, so you couldn't earn it. So you had to leave. But see, then you become bad boys again. You get accused of becoming tax exiles to line your pockets, you know. Same old thing again.
Alors les Rolling Stones ont décidé de rejoindre le clan des tax exiled. Ces privilégiés, ces malheureux errants qui, pour échapper aux impôts, ne passent jamais plus de 4 mois par an dans un seul pays. Pour commencer, l'obligation de ne plus revenir en Angleterre de toute une année. Et c'est ainsi qu'ils vivent depuis lors. En avril, Richards s'installe à Nellcote, au-dessus de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est une grande villa où on sera parfois 30 à dormir et manger, qui servira de base au groupe. On y amarre le tout neuf Rolling Stones Mobile, un studio d'enregistrement implanté dans un semi-remorque et qui n'a pas d'équivalent en Europe. Charlie Watts s'installe à Saint-Jean-du-Gard, en Cévennes. Achète aussi une Citroën SM blanche, et c'est son beau-frère, Ron, puisque lui n'aura jamais le permis de conduire, qui l'amènera 3 jours par semaine à Nellcote. Bill Wyman s'installe à Saint-Paul-de-Vence, où il a pour voisin le peintre Chagall. Ils deviendront amis, et Bill publiera un livre de photographies du vieux peintre chez lui. Mick Jagger habitera à Mougins et Mick Taylor à Grasse. En mai, tout le groupe est rassemblé. Mais pour le mariage de Mick, il n'y a que Keith et Anita qui sont invités. Alors que Mick a frété un avion privé pour amener de Londres ses parents, Joe et Eva, et ses amis, Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Elton John.
Here at Heathrow Airport, some of the biggest names in the rock and roll world are boarding a plane to fly to the très chic French Riviera.
Drôle de journée. En France, quand on se marie, on doit signer un contrat supplémentaire si on ne souhaite pas la communauté des biens. Mick n'en a pas parlé à Bianca. Il lui envoie une heure avant le mariage son financier, lui faire signer les papiers. Colère de la demoiselle, qui s'en souviendra au temps du divorce. Et la mairie en France est un lieu public. Pas question d'empêcher les photographes d'entrer. Alors, c'est Mick qui refuse de paraître. Au bout d'une heure et demie, c'est le maire qui veut partir. On négocie avec les photographes. 8 minutes de photos et au revoir. Richards et Anita font à voix haute des remarques sur l'âge de la mariée, qui s'est rajeunie un peu pour la presse. Et dès le cocktail, Kiss, en uniforme nazi d'origine, s'isole pour un shoot d'héroïne. Bianca refusera de plus jamais les fréquenter, et sitôt le mariage, enceinte de 5 mois, exige de Mick qu'il l'installe à Paris, et non plus à proximité de ses sauvages. Nelko, c'est l'influence sur Kiss de Graham Parsons, devenu comme son alter ego. Avec Graham, c'est à la musique country qu'on ouvre le rock des Rolling Stones. Qui est Graham Parsons? L'héritier des Snivellies. Qui sont les Snivellies? Les principaux producteurs de pamplemousse et de jus d'orange en Floride. Pourquoi ils s'appellent Parsons? Parce qu'après le suicide de son père, sa mère, Avis Snivellies, s'est remariée à Bob Parsons, un entrepreneur de travaux publics qui a laissé Avis s'enferrer dans l'alcool et les a adoptés pour accéder à l'héritage. Alors Graham, qui n'aura jamais rien fait d'autre que chanter et chanter, en restera instable, passant d'une rupture à une autre. Il formera Hills of Shiloh, puis l'International Submarine Band, puis les Flying Burrito Brothers. Avec ceci, leur second disque se fait un peu remarquer. Ça pourrait être un démarrage quand le plus célèbre groupe de country pop du moment, les Byrds de Roger McGuinn, passent une annonce. Ils cherchent un pianiste pour une tournée. Graham laisse tomber son groupe pour intégrer les Byrds, qui, eux, se laisseront déporter vers son répertoire. Ils enregistrent à Nashville et sont les premiers cheveux longs à jouer au Grand Ole Opry et Corey Wind, par exemple. Cet hiver 68, quand les Byrds viennent en Angleterre, les Stones sont à leur concert. C'est un petit coup de pouce. Et c'est là que Keith Richards croise la route de Graham Parsons. Dans les semaines à venir, ils sont enfermés ensemble, souvent à trois, avec Mick, autour du piano que Keith et Graham jouent à quatre mains. Ce que reconnaît Mick Jagger.
One of the few people who really helped me to sing country music. Before that, Keith and I would just copy off records. Un des rares types qui m'ait réellement aidé à chanter la country. Avant ça, Keith et moi, on pouvait seulement imiter les disques.
Myriam Makeba, exilée d'Afrique du Sud en Amérique, a poussé les Byrds à accepter d'aller y chanter, mais de défendre là-bas les droits des Noirs contre l'apartheid, alors que Mandela est en prison. Richards est contre.
The Stones wouldn't go. Nous, on n'a pas voulu y aller.
Alors Graham, dont toute la vie est ainsi faite de rupture, laisse tomber les Byrds et reste vivre à Redlands. Pendant 2 ans, lui et Keith sont quasi inséparables, avec entre deux la guitare ou le piano. La musique country, c'est celle du grand-père de Richards, le souvenir d'enfance de la radio. Ce qu'on partage aussi, bien sûr, c'est l'héroïne, la cocaïne, et un peu de mysticisme qui va bien avec. On s'intéresse beaucoup aux ovnis, Unidentified Flying Objects. On se fait déposer à l'aube à Stonehenge, dans les menhirs. Et à Los Angeles, Graham rend la monnaie en les emmenant dans le désert, à Joshua Tree. Triste destin que celui de Graham. Il résiste moins bien que Kiss à l'association alcool-héroïne, et on finira par le renvoyer. Graham était persuadé qu'il serait le premier artiste à être enregistré par la nouvelle maison de disques des Rolling Stones. Il meurt en 1973 d'une overdose en plein désert. Et un personnage assez secret, Phil Kaufman, ex-compagnon de détention de Charles Manson, l'assassin de Sharon Tate, organisateur de tournées entre autres pour les Rolling Stones, ira de nuit voler son cadavre dans l'entrepôt frigorifique de l'aéroport de Los Angeles où on l'a rapatrié pour le brûler en plein désert. Nellcote, suite. Plainte d'un touriste italien agressé par Kiss avec un revolver parce qu'il lui avait éraflé sa Jaguar. Tony Sanchez essaiera de tout prendre sur lui et produira un pistolet en plastique, soi-disant un jouet de Marlon, mais Marlon a 18 mois, comme si Keith Richards allait s'amuser avec un jouet en plastique. Et la dope. Étrange jeu entre les gendarmes de Saint-Tropez et les pourvoyeurs marseillais qui connaissent vite le chemin. Comme si on préférait d'abord laisser s'enferrer tout le monde avant le coup de filet final. Pourtant, il n'y aura pas de coup de filet. Même quand Anita pratiquera une injection d'héroïne pour lui en apprendre le plaisir, paraît-il, à la fille de 14 ans du cuisinier qu'ils ont engagé, et que celui-ci démissionne et porte plainte. La police mettra 3 semaines avant de perquisitionner, ayant soigneusement attendu que Kiss soit reparti à Los Angeles. On produira pour le public une version nettement différente pour expliquer le départ du cuisinier.
And they had this amazing fucking cook. I'd go over there a lot because the food was so incredible. There would be a table with everything on it that looked like a work of art. And Keith would come in and ask for fried eggs or a hamburger. Et ils avaient ce fichu cuistot. J'allais tout le temps parce que la bouffe était incroyable. Et il y avait une table avec tout dessus. On aurait dit un vrai travail d'art. Et Kiff qui débarquait, qui demandait des œufs au plat ou un hamburger. I did a fucking double album, Exile on Main Street, when I was heaviest into heroin. I would definitely not say it affected my ability to play. J'ai fait ce putain de double album, Exile on Main Street, alors que j'étais le plus lourdement plongé dans les roues. Jamais je ne dirais que ça a pu affecter ma capacité à jouer.
On ne peut même pas le lui contester. N'empêche, lorsqu'ils sentent que la perquisition approche, ils quittent Nellcote tous. Dans les 48 heures. Les gendarmes de Saint-Tropez n'y trouveront que les seringues vides. Assez cependant pour décréter Richards interdit de séjour en France pendant 15 mois. Ce qu'écrit Marianne Faithfull de Kiss semble complètement avéré.
Keith's way of reacting to Brian's death was to become Brian. He took on the very image of the falling down stones junkie, perpetually hovering on the edge of death. La façon de Keith de réagir à la mort de Brian a été de devenir Brian. Il a attrapé l'exacte image de celui qui tombe, le junkie qui joue tout le temps suspendu entre vie et mort.
Rolling Stones racontait comme votre vie même, un feuilleton de François Bon, texte anglais par Judith Allison, équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Catherine Déreté, Julien Douminc, Olivier Decanis et Jacques Taroni.